Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, une émission proposée par Isabelle Duché.
Dilexité, je t'ai aimé, c'est le titre de la première exhortation apostolique de Léon XIV. Comment cet amour envers les pauvres peut-il être mis en œuvre? Quel lien existe-t-il entre l'amour du Christ et son appel à nous faire proches des pauvres? Au village de François, ces questions trouvent des réponses. Le village de François, situé à l'est de Toulouse, est un lieu de vie dans lequel des personnes de différents horizons, des personnes en situation de fragilité, des familles, des jeunes professionnels, des retraités, partagent trois essentiels, le vivre ensemble, l'activité économique et l'écologie intégrale. Ce mode de vie innovant permet de mettre en pratique l'exhortation apostolique dilexité. Et pour en témoigner, j'ai la joie de recevoir aujourd'hui Benoît Solignac et Thibaut Fourniol. Bonjour.
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 Benoît Solignac, vous êtes installé au village de François depuis 2 ans. Vous travaillez à mi-temps au service de la diaconie du diocèse de Toulouse.
Tout à fait.
C'est bien ça. Et Thibaut Fourniol, vous êtes arrivé en famille, donc avec femme, et vous avez aujourd'hui deux petits garçons. Vous êtes arrivé au village de François en 2024.
Oui.
Vous êtes consultant en biotechnologie et encadrant technique au Lutin Vert, une recyclerie d'insertion de jouets. Et si on veut vous voir, il suffit de passer au village, au marché de Noël sur les allées Jules Guedes en ce moment à Toulouse.
Tout à fait.
On pourrait peut-être commencer, avant de plonger dans cette exhortation apostolique, par dire quelques mots sur vos engagements respectifs au village de François. Benoît, vous voulez commencer?
Oui, moi je suis arrivé il y a 2 ans et... Précédemment, j'avais une vie tout à fait insérée avec un appartement, un travail, qui est pourtant porteur d'une fragilité personnelle. Et j'ai dû faire une conversion en arrivant au village pour me retrouver comme un accueilli, en fait. Et c'est vrai que ma recherche était de vivre la fraternité au sens fort, de rejoindre les plus fragiles. Et arrivant à égalité avec les plus fragiles, étant reconnu moi-même comme un fragile, ça m'a demandé tout un cheminement. Aujourd'hui, je suis un peu le référent de ma colocation, où nous sommes à 6 et je travaille donc, j'échange sur la vie de la colocation avec une famille référente qui nous accompagne. Voilà. Moi, j'accompagne depuis l'intérieur de la colocation et la famille intervient depuis l'extérieur.
Et donc, vous faites ce lien.
Mais tous vivent sur l'abbaye. En fait.
D'accord, donc une colocation de 6 hommes.
De 6 hommes, voilà, avec une grande diversité de problématiques, de fragilités, voilà. Au départ du village, il y avait eu le souci de peut-être segmentariser les problématiques d'un côté des gens issus de la prostitution, les gens en fragilité psychique, les gens avec un problème alcoolique, les gens avec d'autres addictions. Et l'expérience depuis 5 ans que le village de François existe a montré qu'en fait, c'est une mixité dans les problématiques qui permet aussi de trouver un bon équilibre au sein de chaque colocation.
Oui, c'est intéressant. Et donc, pas de cloison, mais voilà, un vivre ensemble comme se définit le village de François. Thibaut Fourniol, dans votre engagement, votre place au village de François en famille.
Oui, donc j'ai eu la chance d'arriver il y a un peu plus d'un an avec ma femme au village de François. On venait d'Île-de-France auparavant. Et donc, on est famille en mission au village, donc pour un engagement d'au moins 3 ans pour vivre avec tous les autres villageois, avec être en relation privilégiée avec une colocation. Pour nous, c'est la colocation des femmes, avec 5 femmes qui vivent dans la colocation des fleurs. Et puis aussi, par exemple, on est aussi référent de la dimension donc, sur la nature, les transports, donc aussi l'extérieur, la vie pratique au village.
Alors, avec 8 villageois, vous avez pris le temps de réfléchir à ce qu'a écrit le pape et vous vous êtes demandé comment vous étiez rejoint par cette exhortation en habitant chacun de vous au village de François. Je vous propose de prendre quelques extraits de cette encyclique et puis vous nous ferez part de vos réflexions au fur et à mesure. Il y a d'abord au paragraphe 5, cette phrase de Léon XIV, « Nous ne sommes pas dans le domaine de la bienfaisance ». Mais dans celui de la révélation. Le contact avec ceux qui n'ont ni pouvoir ni grandeur est une manière fondamentale de rencontrer le Seigneur de l'histoire. À travers les pauvres, il a encore quelque chose à nous dire. Alors là, tout simplement, première question, qu'est-ce que disent les pauvres d'eux-mêmes ? Benoît Solignac.
Oui, en fait, l'expérience que nous faisons, c'est qu'il ne s'agit pas de faire d'abord des œuvres de bienfaisance pour les plus fragiles, pour ceux qui ont la singularité de la pauvreté au village de François n'est peut-être pas tant une précarité pécuniaire, même si des gens vivent avec des minima sociaux, mais c'est principalement des problèmes liés à des ruptures de vie, à des moments où ben, voilà, y a comme on a dévissé, on est tombé et du coup la société nous a exclus en fait, nous a mis en marche. Et il faut retrouver et redonner à ces personnes qui sont accueillies confiance en elles et dignité. Et donc, je vais dire le mot clé en fait de notre vie, c'est la question de la bienveillance. Et ça, tous ceux qui passent par le village de François, qui soient simplement de passage ou qui viennent y vivre, dire nous sentons un climat de bienveillance. Et ceux qui n'adhèrent pas à qui rentrent pas dans cette dynamique, en général, ne restent pas.
Oui, c'est ça. Ils ont besoin de partir. Thibaut.
Moi, je suis frappé par deux choses que j'ai découvertes au village. C'est la présence au niveau des pauvretés, finalement, et ça rejoint l'évangile, de beaucoup de handicaps ou de maladies. Des personnes qui peuvent avoir parfois eu d'extraction sociale variée, qui pouvaient avoir un travail important pour certains, et ben voilà, une dépression ou bien une addiction qui l'emporte. Et ces personnes nous confient un sentiment de ne plus avoir de place dans la société liée au travail. Et la deuxième chose, c'est une précarité relationnelle, c'est-à-dire de ne plus pouvoir compter sur des relations familiales, amicales ou professionnelles de confiance. Et c'est aussi ça qu'on retrouve au village, c'est des relations vraies par la proximité au quotidien et la confiance qui renaît et qui permet de s'appuyer les uns sur les autres pour grandir ensemble.
Oui, on comprend bien que cette organisation en colocation répond à ce besoin pour lutter contre, enfin pour mettre un terme à la solitude et pour avoir vraiment cet esprit de famille, on peut dire. Benoît.
Oui, tout à fait. La structure en colocation permet à chacun son espace propre, sa chambre qui est préservée comme lieu d'intimité, où on ne rentre pas, où la personne est pleinement chez elle, où on va faire attention de ne pas être intrusif dans ce
lieu-là. Et de ne pas déranger non plus en faisant
voilà.
du bruit, une attention particulière.
Où il y a la possibilité de se ressourcer personnellement, selon ses besoins, de se reposer, voilà. Et puis après, il y a toute une dynamique qui est autour du vivre ensemble. Et Et j'ai envie de dire ce qui va peut-être être un déclic dans la reconstruction, hein. C'est la question que la personne fragile qui a connu un échec important et qui a été déconsidérée dans son parcours va acquérir une certaine sensibilité à la souffrance, à la vulnérabilité. Et je remarque dans le climat de bienveillance, je le redis, du village, eh ben, elle va avoir le souci de ne pas blesser l'autre. Dans la société, on est plutôt à se bagarrer pour voir qui est le plus fort, qui est le plus puissant, voilà. Et là, c'est un peu une autre logique.
Et c'est le monde à l'endroit. Thibaut Fourniol, vous êtes arrivé avec votre épouse au village de François. Est-ce que vous vous sentiez pauvre en arrivant? Ou de quelle pauvreté vous pouviez dire que vous étiez déjà le dépositaire?
En tout cas, on avait un sentiment d'incohérence de vie, de ne pas pouvoir vivre cet engagement social de la famille qui nous est rappelé au long des textes aussi des papes. Donc voilà, on sentait un besoin de vivre dans un lieu de vie qui puisse être un lieu où partagé, où on puisse vivre des moments de relation. Et dans les grandes villes, parfois, c'est difficile. Et ici, au village, que ce soit en colocation ou dans des logements en famille ou en studio, en fait, c'est la même réalité de vie que l'on expérimente, puisque c'est dans les temps avec les autres, qui sont quand même assez nombreux au quotidien au village, qui font que, voilà, on vit cette vie qui n'est pas une vie communautaire, ce n'est pas la vie monastique, mais c'est quand même autre chose qu'une vie individuelle.
Oui. Alors, le pape François parle de Saint François d'Assise, hein, dans son exhortation apostolique. Dans la rencontre de Saint François d'Assise avec un lépreux, le pape écrit au paragraphe 6, « Dans le lépreux, c'est le Christ lui-même qui a embrassé Saint François d'Assise en changeant sa vie. De quelle manière, au village de François, cette figure du poverello vous inspire ? Thibaut.
En tout cas, au village, oui, il y a deux figures tutélaires, donc qui sont le Saint François d'Assise et le bienheureux Marie-Joseph Cassan, oui, dont les reliques reposent à l'abbaye. Et le Saint François nous montre l'écologie intégrale, c'est-à-dire cette relation vraiment fraternelle, d'égal à égal. Et quand on arrive au village, on est aussi frappé par ça. Certains peuvent arriver en tant qu'accueillis, d'autres en mission. Mais au quotidien, ce n'est pas du tout visible. Quand on arrive, on croise juste des frères et sœurs avec qui on va expérimenter différents moments de vie. Parfois, on a besoin, voilà, on se rend compte aussi que l'histoire de vie n'est pas la même pour chacun, qu'on a tous nos vulnérabilités. Mais oui, pour revenir à Saint François, cette relation fraternelle avec les pauvres, mais aussi avec la création tout entière, qui est très belle et qui aide à nous guérir et à nous faire grandir à l'abbaye. Est vraiment présente.
Benoît, vous voulez compléter?
Oui,
sur cette figure
en fait,
de Saint François.
Évidemment, la personnalité de François d'Assise me touche particulièrement, puisque je suis tertiaire franciscain. Et donc, j'ai déjà un long parcours dans la vie franciscaine. C'est vrai que François, dans le baiser aux lépreux, en fait, va faire tout un changement intérieur, va passer outre son écœurement devant la maladie. Devant le handicap lié
le dégoût de cette maladie de la lèpre.
Il parle d'un dégoût, voilà, ce qui crée, dans son testament, il dit ce qui crée en moi un dégoût est devenu une douceur. Voilà.
Une douceur.
Une douceur. Et je crois que, quand on accepte de se mettre en route avec les plus fragiles et se mettre vraiment un peu en dessous même, hein, pour permettre à l'autre d'être pleinement reconnu. Hein. Et après, les choses se rééquilibrent, mais si on commence par le haut, on n'y arrivera jamais, en fait.
Et cette question de commencer par le haut, elle rejoint aussi cette question des mérites, hein, puisque dans le chapitre 4, le paragraphe 14, le pape écrit « Nous ne pouvons pas dire que la majorité des pauvres le sont parce qu'ils n'auraient pas acquis de mérite, selon cette fausse vision de la méritocratie où seuls ceux qui ont réussi dans la vie semblent avoir des mérites. » C'est vrai qu'on a quand même cette idée reçue que les pauvres le sont parce qu'ils le méritent. Et on l'entend chaque année dans les rapports du Secours catholique. Hein. Ça, c'est un sujet qui est récurrent. Qu'est-ce que la vie au village de François vous enseigne de différent, Thibaut Fouignol?
Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce qui permet aussi de vivre au village de François avec une certaine autonomie, c'est que tout repose sur les habitants. On n'a pas de services extérieurs qui viennent s'occuper de l'entretien ou ce genre de choses. Donc, cette responsabilisation bienveillante de tous les habitants, elle permet vraiment de révéler les mérites de chacun. Moi, dans le parc, je confesse que je n'ai pas encore poussé la tondeuse à gazon depuis mon arrivée. Heureusement que tout le monde s'est proposé et pas forcément ceux ou celles à qui on aurait pu prêter cette force. Eh bien, c'est ça qui permet d'entretenir le grand parc du lieu. Et certains ont parfois besoin de plus d'encouragement ou de plus de temps pour s'habituer à un peu cette règle de vie d'être au service les uns les autres et au service du projet. Mais c'est ça qui révèle aussi la grandeur et la force vraiment de chacune des personnes qui, j'en témoigne, vraiment peuvent, dans le service, se révéler leur talent.
Et on entend bien cette question de responsabilité. Finalement, on comprend que cette vie n'est possible que si chacun y met sa part et peut prêter son service, son cœur, ses bras et sa force. Benoît ?
Oui, il y a la participation de chacun, mais là, je réfléchissais aussi à la question du mérite.
Oui.
Hein, cette idée profondément fausse contre laquelle s'élève le Saint-Père. Non, les pauvres n'ont pas cherché, n'ont pas été maladroits dans la gestion de leur vie. Les accidents de vie, nous sommes tous susceptibles d'en rencontrer dans notre parcours. Et c'est la qualité de la vie fraternelle et de l'attention à chacun qui va permettre de remonter et de reconstruire.
Et de déployer finalement des talents.
Des talents. Et donc, j'ai envie de dire aussi que ces mérites supposés sont en fait une occasion. Si on met en place des relations de fraternité, que chacun donne le meilleur de lui-même. C'est comme ça qu'on a...
Et c'est une marque de confiance et ça relève en fait, hein, ça reconstruit. On va terminer cette première partie avec ces mots de Mère Teresa qui sont rappelés au paragraphe 77. Les pauvres n'ont pas besoin de notre pitié ni de notre compassion. Ils ont besoin de notre amour compréhensif. Ils ont besoin de notre respect. Ils ont besoin que nous les traitions avec dignité. Alors on entend bien, hein, respect, dignité, amour. Est-ce que c'est vraiment tous ces besoins qui sont comblés au village de François, ou est-ce qu'il y en a d'autres aussi?
Je crois que c'est vraiment l'essentiel est dit là, puisque, en tout cas, pour moi, traiter avec dignité, il faut à la fois une attention matérielle et une attention spirituelle. Les deux ont vraiment besoin l'une de l'autre. Au village, c'est vrai que le cadre permet les deux, puisqu'on peut vivre dignement avec 500 euros par mois au village de François, tout compris le loyer, les charges, la nourriture, le transport, l'argent de poche. Ça peut être au début obtenu grâce à une allocation, puis après grâce à un travail qui est proposé. Et une fois cela établi, il y a aussi beaucoup de temps libre au village qui permettent des temps spirituels. Il y a des propositions de temps spirituel chrétien, mais aussi juste des temps gratuits, d'amitié entre habitants, de lecture, d'entraide, de service. Et tout ça, ça permet aussi l'amour entre les personnes. Et c'est ça vraiment l'amour fraternel qui fait un bien fou et qui redonne à chacun l'amour de soi.
Ah oui, ça c'est effectivement important aussi pour se construire. Je vous propose, Benoît Solignac et Thibaut Fourniol, de nous arrêter quelques instants. Nous écoutons « Viens, sois ma lumière » interprété par Cœur de Ville.
Viens, sois ma lumière, mon feu d'amour, porte-moi dans les cœurs des pauvres, chez les malades, chez les mourants. Allume la flamme de mon amour.
Viens, viens, sois ma lumière, mon feu d'amour, porte-moi dans les cœurs des pauvres, je les désire et je les aime. Donne-moi leurs âmes, j'ai soif d'amour.
J'ai le grand désir d'allumer la lumière de l'amour dans le cœur de chaque créature de Dieu.
Viens, viens, sois ma lumière, mon feu d'amour, porte-moi dans les cœurs des pauvres, chez les malades, chez les mourants. Allume la flamme de mon amour.
Ta vocation est d'aimer, de t'offrir, de sauver des âmes. C'est en faisant ce pas que tu réaliseras
Église, Isabelle Duché.
Nous parlons de la première exhortation apostolique de Léon XIV, d'illexité, et nous voyons aujourd'hui comment sa mise en œuvre est concrète, notamment au village de François. On arrive au paragraphe 79 qui indique que les plus pauvres ne sont pas seulement objets de notre compassion, mais des maîtres d'évangile. Il ne s'agit pas de leur apporter, entre guillemets, Dieu, mais de le rencontrer en eux. Vous avez parlé, Thibaut Fournuel, des propositions spirituelles, et c'est vrai qu'au village de François, tous les membres ne sont pas chrétiens. Comment faites-vous cette expérience d'évangélisation mutuelle?
Je pense que c'est la relation fraternelle, elle vient souvent naturellement. Et moi, je suis impressionné, par exemple, dans notre relation avec la colocation des femmes, où la plupart ne sont pas chrétiennes, et leur capacité finalement à s'organiser entre elles, malgré leurs blessures, leurs maladies, leur histoire difficile, nous ramène, nous, à finalement, assez rapidement, maintenant, à un rôle simplement d'amis, et plus du tout un rôle surplombant, mais de pouvoir juste les accompagner, comme dans le chemin d'Emmaüs, et finalement d'être évangélisés naturellement, par cette belle relation avec des personnes fragiles qui nous rappellent la fragilité de l'être humain, comme Jésus qui était parmi nous toujours vulnérable, mais qui au contraire crée cette vraie relation profonde entre nous.
Benoît Solignac, sur cette question d'évangélisation mutuelle.
Alors, évangélisation mutuelle, elle se fait malgré nous, j'ai envie de dire. Bien sûr, nous qui sommes chrétiens, qui sommes venus aussi, qui avons rejoint ce projet dans une dimension d'un appel à rejoindre un projet chrétien, évidemment, le Christ est central. Et la vie de prière que nous avons vient nourrir la qualité des relations et du bien vivre. Mais je voudrais citer l'exemple d'Éric que je rencontrais hier et que je lui disais, il s'est mis en chemin vers le catéchuménat après un an de présence au village. Je lui ai dit, est-ce que c'est notre présence qui t'a amené à entreprendre cette démarche vers le catéchuménat? Et il m'a dit, c'est pas non plus mon histoire qui m'a parlé quand j'ai lu la Bible, mais c'est parce que j'ai pu me poser, parce que j'ai eu l'occasion d'aller, de pouvoir me recueillir, de goûter le silence, et en effet, tout un chacun se reconnaît dans ce cheminement spirituel où si on ne s'arrête pas pour faire silence, Dieu est silencieux lui aussi.
Et oui, bien sûr. Oui. Et puis on imagine que dans cet écrin de nature qu'est le village de François, ça prête aussi à la contemplation. Cette contemplation de la création peut être aussi un moteur pour un cheminement spirituel. Sur cette question de Léon XIV au paragraphe 79, il dit « Dans la personne des pauvres, il y a une présence spéciale du Fils de Dieu qui impose à l'Église une option préférentielle pour eux. » Est-ce que vous pourriez nous dire, nous préciser de quoi il s'agit quand notre Saint-Père parle de cette présence spéciale de Jésus en chacun des habitants du village de François? C'est un peu mystérieux aussi, c'est vrai.
Oui, et c'est vrai que c'est le... Je crois que c'est le cadre du village, les règles de vie que l'on partage et que l'on choisit, font que c'est un peu naturel. Et on aimerait que ça puisse être transposable à toute la société, En tout cas, le fait de vivre simplement, voilà, dans ce projet, de se côtoyer de cette manière, fait qu'on se met à aimer chacune des personnes qui sont pourtant très différentes. Certaines demandent parfois plus d'efforts au début que d'autres, mais on se rend compte vraiment de cette part divine, de cette part magnifique qui habite en chacune. Et c'est ce cadre de bienveillance et de temps laissé pour éclore finalement qui permet, voilà, de découvrir cela et qui, consciemment ou inconsciemment, pour chacun, voilà, révèle Jésus en chacun.
Vous nous avez parlé dans la première partie de cette émission d'une responsabilité qui était confiée à chacun dans le service. Il y a aussi la place du travail. Hein, au paragraphe 87, Dilexité fait référence à l'encyclique Laborem Exercens, dans laquelle Saint Jean-Paul II affirmait que le travail humain est une clé et probablement la clé essentielle de toute la question sociale. Qu'est-ce que le travail au village de François apporte à chacun, très concrètement, Benoît Solignac?
Oui, ben je prendrai l'exemple de Myriam que je rencontrais hier et qui est arrivée en même temps que moi au village. On était même dans une colocation partagée, puisque il y avait une sous-colocation, si on peut dire, d'un côté des femmes, d'un côté des hommes. Et ça fait donc 2 ans qu'elle est au village. Et elle vient juste d'embrayer sur la question du travail. Elle me dit, ben, voilà, je sens que toute ma vie est aujourd'hui en croissance grâce à ce travail que je fais à la Bonne Ferme.
Voilà. Oui, c'est très concret, Thibaut Fourniol.
Exactement. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'écosystème du village de François, donc le village, porte des activités économiques avec une hôtellerie où tout le monde est bienvenu, une boutique, et puis à côté, du coup, des 2 chantiers d'insertion que sont à la Bonne Ferme, maraîchage, et les lutins verts pour les recycleries de jouets. Il y a aussi la miellerie à l'intérieur du village. Donc, ces activités qui étaient au temps des moines ou d'autres nouvelles offrent des opportunités pour les villageois, mais aussi pour les habitants locaux. Il y a plus de la moitié des salariés de tout cet écosystème qui n'habitent pas au village, de trouver un travail sur place, avec parfois des horaires adaptés, avec toujours ce climat de bienveillance, cette volonté de faire un premier pas dans le monde du travail, mais le vrai monde du travail quand même, pour éventuellement après pouvoir voler même de ses propres ailes et aller trouver un travail en dehors complètement de cet écosystème. Et ça, cette possibilité-là, c'est vrai qu'elle est une des pierres sur lesquelles se fonde ce qui marche au village de François, parce que c'est vrai qu'à la campagne en plus, voilà, les opportunités de travail ne sont pas légion, surtout quand il y a les questions de transport, enfin, il y a plein d'enjeux, mais là, ça redonne un sens, ça ferme finalement ce cycle d'une vie qui est digne, puisqu'on trouve à la fois dans le travail, la vie fraternelle, les services gratuits aussi, tout ça donne son sens. Donc c'est très important et c'est vraiment une bonne chose.
Benoît ?
Oui, je voulais aussi revenir sur cette question-là et citer l'exemple d'un de mes colocataires, Pierre-Louis. En fait, je sentais qu'il se refermait sur lui-même, qu'il restait de plus en plus dans sa chambre. Autant de partage que nous avons chaque semaine, où chacun est appelé à dire un peu ce qu'il habite, ce qui lui tient à cœur, ce qu'il a vécu pendant la semaine. Il vivait un certain mutisme. Il faisait un petit pouce pour dire « Ouais, tout va bien. » Et puis, il n'y avait pas une parole qui sortait. Et puis, depuis à peu près 2 mois, il a commencé une activité à la miellerie. C'est une heure et demie, 2 heures par jour. C'est, Ça paraît insignifiant.
Oui, ça commence tout doux.
Chaque semaine, à la fraternité de la coloc, Pierre-Louis nous témoigne de ce qu'il a fait vivre pendant la semaine dans son travail.
Et ça passe par le travail. Ouais,
voilà,
ouais,
c'est ça.
Cette dignité retrouvée.
Moi, j'ai mis des étiquettes. Moi, j'ai préparé des commandes. Voilà.
Oui, il sent qu'il a sa place.
Et on voit ce garçon tout souriant de pouvoir dire qu'il est...
Magnifique, c'est un bel exemple effectivement qui illustre bien la dignité du travail et ce qu'elle peut restaurer. Je vous laisse encore la parole Benoît, puisque vous avez été particulièrement marqué par ce passage de l'exhortation apostolique d'Illexité sur le bon samaritain. C'est vrai que le bon samaritain, il a osé regarder le pauvre et s'en occuper. Qu'est-ce qui vous touche particulièrement?
Oui, c'est surtout le fait que le Saint-Père a été, je trouve, très, très sévère dans son petit commentaire au paragraphe 105, là. À qui t'identifies-tu? Cette question est crue, directe et capitale. Parmi ces personnes, à qui ressembles-tu? Et ces fameuses personnes qui gravitent autour du Samaritain.
Qui ne s'arrêtent pas ou qui changent de trottoir.
Et qui ne s'arrêtent pas. Et un peu plus loin, il dit, disons-le, nous avons progressé sur plusieurs plans, mais nous sommes analphabètes en ce qui concerne l'accompagnement, l'assistance et le soutien aux plus fragiles et aux plus faibles de nos sociétés développées. Nous sommes habitués à regarder ailleurs, à passer outre, à ignorer les situations jusqu'à ce qu'elles nous touchent directement. Et moi, j'avais envie de dire, tant qu'on n'a pas... Je sais que je vais peut-être scandaliser mes collègues de la diaconie qui accompagnent les gens en grande précarité, mais nous ne sommes peut-être pas tous pauvres, mais tant que nous n'avons pas ressenti en nous une blessure et mis le doigt sur nos propres blessures, eh bien, je crois qu'on a bien des difficultés. Quand on est plein de soi-même, on ne regarde pas celui qui est dans le caniveau.
Et ça fait le parallèle, le pendant avec ce paragraphe 100 où le pape écrit « L'expérience de la pauvreté leur donne la capacité de reconnaître des aspects de la réalité que d'autres ne réussissent pas à voir ». En fait, on a l'impression que c'est un changement de lunettes, tout simplement. On va terminer par ces mots encourageants qui, j'imagine, ont dû vous faire chaud au cœur au village de François, au paragraphe 101. Le pape Léon XIV écrit « C'est pourquoi j'adresse mes sincères remerciements à tous ceux qui ont choisi de vivre parmi les pauvres, ceux qui ne se contentent pas de leur rendre visite de temps en temps, mais qui vivent avec eux et comment ?» Comment cet encouragement et la vie que vous vivez au village de François s'insère dans une tradition de l'Église, finalement? Thibaut Fourniol.
Oui, le pape, la lecture de ce texte a été reçue comme un cadeau par le village. Et c'est vrai qu'à la fois, elle nous a permis de nous rendre compte qu'on était c'était un bon chemin évangélique. Et moi, je peux témoigner en tant que famille vraiment que cette vie au village, elle nourrit, je pense, toute une vie qui peut être d'engagement divers, mais au niveau pratique. Et vivre, comme il l'écrit, voilà, fréquenter les pauvres, vivre avec eux, vivre comme eux, et ben c'est vraiment... C'est irremplaçable si on veut pouvoir penser et s'engager pour la justice sociale ou pour la société. Et aussi, cette enseignement nous a permis de nous rendre compte qu'on s'inscrivait finalement, on ne sortait pas de nulle part, mais vraiment dans la tradition de l'Église. Le fait que nous soyons dans une abbaye aujourd'hui cistercienne nous montre aussi voilà, toutes les manières qui ont existé, les ordres mendiants, le soin des malades, cette diversité d'approche de la charité, mais qui est toujours nourrie de l'amour et qui est toujours aussi une rencontre du Christ dans chacune de ces manières propres de l'Église. Et nous, on se sent porté par cette continuité. En tout cas, moi, la lecture de ce texte m'a vraiment apporté cela.
Un immense merci, en tout cas, de nous avoir partagé vos réflexions et puis votre expérience de cette mise en pratique de l'exhortation d'illexité du pape Léon XIV. Elle se vit donc au quotidien au Village de François. Je vous remercie, Benoît Solignac et Thibaut Fourniol, d'être venus témoigner ce matin.
Merci beaucoup.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.